Et bonjour Michel Juvet.
Bonjour.
Vous êtes associé à la banque Bordier & Compagnie à Genève, responsable des investissements. Vous êtes en ligne avec nous pour parler des conséquences économiques et financières globales de cette crise sanitaire qui a provoqué l'arrêt de pans entiers de l'économie. On l'évoquait à l'instant dans la revue de presse internationale. Et puis c'est un problème qui nous accompagnera bien au-delà des difficultés sanitaires. Michel Juvet, pour 2020, est-ce qu'on est déjà certain de voir une récession globale, une dépression peut-être ?
Non, c'est-à-dire que bon, en économie, c'est peut-être encore pire que dans la médecine. Les prévisions, faut toujours les prendre avec beaucoup de pincettes. En revanche, le très court terme est très très clair. On a un arrêt total des économies maintenant sur ce premier et deuxième trimestre. Et c'est là, entre guillemets, la nouveauté, c'est que souvent, quand on avait une crise, on parlait de plan de relance coordonné. On a malheureusement ici des plans de fermeture coordonnés, hein, puisque pays après pays, on ferme les entreprises, on ferme l'économie. Et donc, ça se traduit forcément par un arrêt brutal et on parle de chutes de production de l'ordre de 30 à 35% selon les pays, des baisses de produits intérieurs bruts pendant cette période a priori qui devrait rester courte sur ce premier, deuxième trimestre de l'ordre de moins 10%. Donc, c'est des chiffres énormes. Je crois que quasiment personne ne les a connus parce qu'il faut remonter à la Deuxième Guerre mondiale pour les connaître. Donc c'est un arrêt brutal et on aura une récession technique, ça c'est sûr. Technique, ça veut dire deux trimestres de baisse de la croissance. Et puis, ma foi, tout le monde espère que dans le deuxième semestre, la croissance reviendra et qu'en fin d'année, on aura une croissance négative sur toute l'année, mais pas si grave que celle qu'on est en train de vivre pour les deux prochains trimestres.
Et là, tout le monde est touché de la même manière. Ce sont aussi bien les grosses entreprises que aussi, évidemment, les indépendants, les PME. Et on connaît l'importance, alors notamment pour la Suisse, du tissu des PME.
Oui, alors quasiment tous les secteurs d'abord sont touchés, hein, tout ce qui est cyclique, l'industrie, l'énergie, la consommation, le tourisme, le voyage, tout ça souffre énormément que vous soyez une grosse entreprise ou une petite entreprise. On le voit dans le voyage, on a des compagnies aériennes, des grandes compagnies aériennes qui risquent de disparaître d'ici un à deux mois si rien n'est fait ou si la reprise ne revient pas. De même, on voit évidemment beaucoup de PME, le bureau de tabac du coin, le restaurant du coin, et l'avocat, le chauffeur de taxi, tout ça, tout le monde souffre énormément. Et puis, je dirais que pour le moment, heureusement, on va dire que cette crise-là n'a pas encore contaminé le secteur bancaire, qui lui est plutôt solide, en tout cas plutôt solide par rapport à 2008. Et c'est aussi pour ça que les mesures qui sont en train de se mettre en place sont pour éviter que ça contamine le secteur bancaire et qu'on arrive à une crise financière qui viendrait se superposer, une crise économique et sanitaire. Mais je dirais qu'il n'y a quasiment que deux secteurs qui ne souffrent pas. Évidemment, c'est le secteur de la santé, parce que là, toutes les énergies sont concentrées sur ce secteur. Oui. Puis on va dire que le secteur de l'électricité, de l'infrastructure des télécoms souffre relativement peu.
Bon, les deux secteurs qui souffrent relativement peu de cette crise. Michel Juvet, les banques centrales injectent massivement de l'argent. La Fed, la réserve fédérale américaine, a descendu ses taux à zéro. Ça, c'est au fond, elles n'ont pas le choix. C'est la seule chose qu'elles puissent faire.
Alors, elles ont mis en place beaucoup, beaucoup de choses, des anciennes et des nouvelles, des choses qu'on avait apprises pendant la crise de 2008. Du côté des banques centrales, l'objectif est évidemment principalement d'assurer que le système de paiement fonctionne, c'est-à-dire que le système bancaire tienne. La deuxième chose aujourd'hui qui est nouvelle, c'est qu'il faut stabiliser les marchés obligataires, la dette des entreprises qui a été émise sous forme d'obligations. On a vu ces derniers jours des dettes de ces entreprises chuter énormément. Et puis, le troisième volant, c'est évidemment aider les États à emprunter. Donc, pour faire ça, on a baissé les taux d'intérêt aux États-Unis, on est presque à zéro, on y est quasiment. En Suisse, en Europe, on y était déjà. On a mis en place des lignes de crédit entre banques centrales en dollars pour éviter qu'il ne manque pas de dollars sur la planète. On est en train de penser à abaisser ce qu'on appelle les normes de fonds propres dans les banques, c'est-à-dire qu'on avait demandé qu'il y ait beaucoup de fonds propres en 2009 pour pas qu'on tombe en crise. On se rend compte qu'on pourrait peut-être baisser un petit peu les normes de fonds propres pour les laisser naviguer plus facilement sur les crédits. Et puis on a surtout maintenant ces programmes, on avait appelé QE, donc quantitative easing, où les banques centrales achètent des obligations des États pour garder les taux d'intérêt bas. Et la nouveauté maintenant qui se développe, c'est que ces banques centrales vont aussi acheter des obligations des entreprises privées. Hein. Ça sert à stabiliser le marché des obligations pour éviter que ce marché s'effondre et que les entreprises ne puissent plus emprunter. Donc on a un ensemble de mesures qui va permettre d'éviter normalement une crise financière, de maintenir ce système de paiement et puis en dernier lieu, de financer les États. Et ça, c'est quand même la chose la plus importante qui va se produire parce que les États vont emprunter des sommes mais colossales pour faire face à ce problème.
Oui, des États qui annoncent des plans d'aide massifs. Les États-Unis qui envisagent de verser 1 000 dollars à chaque Américain. On rappelle qu'ils sont quand même plus de 320 millions. L'Allemagne qui prépare 150 milliards d'euros d'aide. Au fond, la rigueur budgétaire, tout ça, c'est totalement oublié. Ça n'est plus le problème.
C'est complètement oublié. Il faut bien se rendre compte que si les banques centrales ont les missions que j'ai décrites tout à l'heure, les États ont d'autres missions. Les États doivent, un, protéger les ménages et les plus vulnérables qui vont perdre leur emploi, qui vont avoir une perte de revenus, qui pourront avoir des difficultés pour se protéger sanitairement ou pour se nourrir, même dans certains cas. Il faut protéger les PME, puisqu'effectivement, ces PME ont besoin de liquidités. Et c'est pour ça qu'on a des plans incroyablement massifs. Alors, vous parliez de 1 000 dollars distribués en cash par individu aux États-Unis. Maintenant, on parle de 3 000 dollars par famille aux États-Unis. Donc, vous vous rendez compte, oui. Chaque ménage va recevoir 3 000 dollars. On a un plan de relance global. Après, il faut qu'on regarde dans les détails ce que ça veut dire. Mais disons, aux États-Unis, on est parti de 1 000 milliards de dollars il y a une semaine. On était à 2 000 milliards de dollars samedi. Et hier, on parlait de 4 000 milliards de dollars. Ça veut dire 25% du produit intérieur brut. Donc, c'est des sommes extraordinairement élevées qui vont focaliser sur différents sujets, justement, aider les PME, leur garantir les prêts bancaires, faire des dons dans certains cas. On aura même probablement des mini-nationalisations où l'État va prendre des participations dans des entreprises stratégiques en difficulté. On en parle aux États-Unis sur les compagnies aériennes en particulier. Et donc, on a tous ces éléments en tête de venir qui fait que, oui, des règles budgétaires sont passées la trappe. L'Union européenne a dit la règle des 3%, on oublie. Oui. Et on va vers une augmentation massive de la dette.
L'Espagne réclame un nouveau plan Marshall, c'est-à-dire de gros investissements publics pour relancer l'économie à l'image de ce qui avait été fait après la Seconde Guerre mondiale. Ça va s'imposer à un moment donné ?
Oui, alors aujourd'hui, on en est à faire des plans massifs pour le court terme. On voyait, c'est pour soutenir temporairement les choses. Mais il va falloir investir pour relancer la demande si cette crise dure ces deux trimestres. Si évidemment, elle s'arrête dans une semaine ou 15 jours parce que la confiance revient, on a trouvé un médicament et un traitement, tout ça va coûter beaucoup moins cher, évidemment. Mais a priori, oui, il va falloir aussi investir à long terme et j'espère que les États vont saisir l'occasion à ce moment-là pour se pencher sur deux domaines particuliers, évidemment, qui concernent de l'infrastructure, c'est le domaine sanitaire. Il va falloir investir massivement pour réorganiser un petit peu cette organisation sanitaire mondiale. Et puis, ne pas oublier le problème du réchauffement climatique qui a été mis de côté maintenant parce qu'il n'y a plus de croissance, il n'y a plus de pollution, donc tout le monde se dit que tout va bien, mais ça va revenir. Et l'urgence climatique qui est globale et autant globale que la pandémie sanitaire va revenir et il faut la traiter. Donc, c'est l'occasion aussi pour investir pour le long terme, c'est clair.
Et l'après-crise, Michel Juvet, de là où vous êtes, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez vous nous avez parlé le rôle de l'État notamment. Qu'est-ce qui va rester ? Qu'est-ce qui peut rester ?
Alors bon, déjà, on voit une après-crise. Ça, c'est déjà le côté positif. Et oui. C'est pour ça qu'on n'imagine pas qu'on va entrer en dépression. Mais après cette crise, ça va laisser des traces dans beaucoup de domaines. Alors, c'est sûr, comme on vient de le dire, l'augmentation massive de la dette signifie une chose, c'est que les États, quand ils vont avoir besoin d'argent, ils vont s'adresser à la Banque centrale. Et la nouveauté, probablement, c'est que ces banques centrales vont financer directement l'émission de la dette des États. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Et ça a un impact sur le marché des taux d'intérêt, parce que ça veut dire qu'on saura que la banque centrale est là pour acheter la dette, donc le taux d'intérêt, il va plus bouger, c'est une chose qui va être acquise. Donc les programmes d'austérité dont on parlait ces dernières années, c'est oublié. On va avoir des participations étatiques dans des entreprises. On va surtout avoir, comme on a eu en deux minutes une crise bancaire, cette fois-ci on a une crise sanitaire, les États vont agir de la même manière avec un excès de réglementation. Dans le secteur bancaire, on a eu un excès de réglementation après 2008. On va avoir un excès de réglementation dans les voyages, dans le sanitaire. Est-ce qu'on va demander aux gens de déclarer à chaque fois qu'ils partent en voyage, qu'ils sont en bonne santé ? On va devoir investir beaucoup plus dans les hôpitaux. Ça va coûter très cher. On a une population qui vieillit. Donc, on voit que c'est une maladie qui touche beaucoup la population qui est plus vieille. Et puis, je pense qu'on a une sorte de déglobalisation également. On voit que les États vont se replier. Ils vont défendre leurs intérêts stratégiques. On voit les combats un peu d'arrière-garde qui se mènent entre la Chine, les États-Unis ou même en Europe pour acheter des masques, se piquer des machines. Enfin, on voit que le monde redevient un peu pour défendre ses propres intérêts. Puis je crois que la question principale, pour moi, philosophique, c'est est-ce que le modèle chinois est en train de devenir le modèle de référence avec ce contrôle des personnes, la digitalisation de la maladie. On voit il y a la trace par les smartphones, comment les gens sont malades, qui est malade autour de vous. On voit l'influence de l'État chinois qui finance tous les programmes grâce à l'aide de la Banque de Chine. Donc on a, oui, on vous parlait tout à l'heure du retour de l'État. Je pense que ça va même beaucoup plus loin dans la philosophie de l'organisation de la vie. Et là, il y a des sérieuses questions à se poser. Quel est le modèle que nous avons quel modèle voulons-nous suivre dans les prochaines années, malgré les enjeux financiers qu'on a pour le moment? C'est pas parce qu'on a une crise énorme en termes sanitaires et économiques qu'il faut changer complètement le modèle culturel que nous utilisons. En tout cas, personnellement, j'ai pas envie d'adopter un modèle chinois.
Voilà les choix devant lesquels nous nous trouvons. Merci beaucoup, Michel Juvet, d'être venu dans Tout un monde, nous apporter vos lumières, votre analyse sur cette situation et sur l'après-crise aussi.
Merci à vous.
Bonne journée.
Bonne journée.